RFI Matin, prochain journal dans 20 minutes à la une, la COP29, deuxième jour de prise de parole des dirigeants ce mercredi. On va aussi parler dans le journal du coût de la vie, toujours plus important en Russie. Conséquence, les vols de beurre se multiplient. Nous appellerons notre correspondante à Moscou dans le journal d'Alban Le Prince. Mais d'abord à suivre, notre grand invité du jour sur RFI, Tiken Jafakoli, sera sur notre antenne toute la journée et ça commence dès ce matin. Entretien avec Frédéric Gara à suivre, mais d'abord le sport. Avec Christophe Diremzian ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour Marianne.
En football, les jours décisifs arrivent dans les éliminatoires de la CAN 2025. D'ici à mardi prochain, on connaîtra tous les qualifiés.
Et il y a encore beaucoup de place à prendre à l'aube de cette cinquième journée. Ça ne concerne pas le Cameroun. Déjà à l'abri en tête de son groupe J, les Lions Indomptables sont partis en Afrique du Sud pour y affronter la Namibie. Déjà hors course, match sans pression pour les visiteurs et toujours sans publicité sur leur maillot à cause d'un divorce contractuel avec leur équipementier. Jusqu'alors, Yaoundé, Joël Wadem.
Ce mercredi, face à la Namibie, les Lions Indomptables joueront une fois de plus avec des maillots sans sponsor. La même situation a été enregistrée lors des deux dernières rencontres face au Kenya. La raison, le contrat avec OneSport en vigueur depuis septembre 2022 a été résilié par l'Africa Foot le 9 août dernier. Le Cameroun a arboré pour la dernière fois les maillots de cet équipementier en septembre face à la Namibie et au Zimbabwe pour les qualifications pour la CAN 2025. Selon la fédération, ce divorce est lié au non-respect des engagements contractuels de OneSport. Cette société, dont la notoriété se limitait jusqu'alors au sport mécanique, devait verser 1 milliard de francs CFA par an pendant 3 ans, fournir des équipements d'un montant de 650 millions de francs CFA et mettre à la disposition des Lions Indomptables un bus VIP flambant neuf. Le partenariat présenté par Samuel Eto'o il y a 2 ans comme le contrat du siècle aura donc finalement été un marché de dupes. Après la résiliation, la procédure pour le recrutement d'un nouvel équipementier a été lancée. Mais 4 mois plus tard, le résultat reste attendu. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et contrairement aux Camerounais, 2 autres sélections en lice ce mercredi sont en mode survie. Le Togo est en déplacement chez les Libériens à 16h, temps universel. Victoire indispensable pour les éperviers s'ils veulent y croire au moins 24 heures de plus en attendant le résultat de Guinée-Équatoriale-Algérie demain dans le groupe E. Et dans le groupe G, le Tchad affronte la Sierra Leone à Ebimpe en Côte d'Ivoire à partir de 19h TU avec là encore l'obligation de l'emporter.
Le foot féminin cette fois, les Marocaines de l'Asfar se rapproche des demi-finales de la Ligue des Champions.
Après une victoire à El Jadida sur le tout-puissant Mazembe 3-1, les Congolaises avaient pourtant ouvert la marque au bout d'un quart d'heure, mais elles se sont effondrées en seconde période en encaissant 3 buts en moins de 10 minutes et après avoir vu un deuxième but de Kanjinga retoqué à la vidéo juste avant la pause, de quoi dégoûter l'entraîneur Lamia Boumedi.
Vraiment une merveille et les autres joueuses étaient démotivées parce qu'ils ont bien compris que l'arbitre est contre nous. Donc, il n'y a pas plus que ça quand tu marques l'arbitre. Il dit non, qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent que si on va marquer, ils vont dire hors-jeu ou pas bis, comme ça. Mais on a perdu juste une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il y aura encore des chances. On doit rester focalisé sur le match du vendredi. Et on va se qualifier, Inch'Allah.
Et vendredi, Mazembe affrontera pour la qualification les Sénégalaises d'Aigle de la Médina, battues 2-0 hier par les Sud-Africaines de University of Western Cape.
Christophe Diremzian, RFI 5h46 à Dakar.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Les chefs d'État se sont succédés hier à la tribune de la COP29 à Bakou. Ça continue aujourd'hui avec le Premier ministre russe et la chef du gouvernement italien qui sont attendus. Un nouveau point de passage pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, annoncé hier par Israël, l'État hébreu, qui cette nuit a visé la banlieue sud de Beyrouth au Liban après un ordre d'évacuation donné par l'armée israélienne à la population. Pas de bilan humain et matériel pour l'instant. Les autorités ukrainiennes ont déclenché une alerte aérienne à l'échelle de tout le pays ce mercredi. Le président russe Vladimir Poutine est en train de lancer une attaque de missiles sur Kiev, a écrit sur Telegram le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis aux États-Unis, Donald Trump, président élu, sera reçu cet après-midi à la Maison-Blanche par Joe Biden. Trump qui continue de dévoiler sa future équipe gouvernementale. Elon Musk en fait partie. On fait le point dans le prochain journal. Vous le savez, ce mercredi 13 novembre, journée spéciale Tiken Jafakoli sur RFI à l'occasion de son acoustique tour. Toute la journée, l'artiste ivoirien sera au cœur de nos différents rendez-vous. Ça se terminera ce soir par son concert à la salle Playel à Paris, à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne 20h40, heure de Paris. Figure majeure du reggae, Tiken Jafakoli a toujours été cette voix qui dénonce et qui porte haut les couleurs du panafricanisme. Ce matin, pour débuter cette journée spéciale, le natif d'Odiéné en Côte d'Ivoire qui vit au Mali revient à notre micro sur le dérèglement climatique, sur la souveraineté africaine et sur la situation politique et sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel. C'est au micro de Frédéric Gard.
Tiken Jafakoli, bonjour.
Bonjour.
Il y a un titre et un clip qui ont beaucoup fait parler de ces derniers temps. Cette actualité brûlante, qui est un titre du chanteur togolais Amenja Sissé. Mmh. Chacun en prend un peu pour son grade.
Ouais, hein. Ouais.
Le Togo, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire aussi. Mmh. Qu'est-ce que vous reprochez dans ce titre à l'AES ?
Écoutez, il y a eu 26 secondes dans cette chanson consacrée à l'AES et qui a fait un tollé. Voilà, je pense que le gars de l'AES pensait que j'allais être le griot de l'AES. C'est-à-dire que j'allais chanter Assimi Goïta, Capitaine Traoré, et Tchani. Je pense que c'est à ça qu'ils s'attendaient. Mais moi, je suis Tiken Jafakoli, je fais du reggae. Mon rôle, c'est de tenir compte un peu de tout le monde, d'être impartial, donc je pouvais pas...
C'est le propre du reggae.
Voilà, moi je fais du reggae, et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc venir m'attaquer parce que j'ai dit que la liberté d'expression a été avalée par la révolution, moi j'ai été surpris de la réaction de mes fans, mais en même temps...
Réaction violente, c'était quel genre
de... Ouais, j'étais assez violent quand même, assez violent, on m'a traité de tout, on m'a dit que la France m'a payé... On m'a dit que...
C'est-à-dire que vous avez le droit de critiquer Forné Simbé pour sa révision de la Constitution ou un quatrième mandat éventuel pour Ouattara en Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas le droit de vous attaquer à l'AES?
Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de m'attaquer à l'AES parce que je pense que dans l'esprit des soutiens de l'AES, c'était Tiken Dja, c'est notre voix. Voilà, mais moi je suis aussi la voix des sans-voix. C'est ça qu'ils ont oublié.
Mais le Burkina Faso, c'est quand même un pays où en ce moment, on voit quelqu'un que vous devez bien connaître, Guy-Hervé Kam, qui est un des fondateurs du Ballet Citoyen, qui est actuellement en prison. On voit des journalistes qui sont arrêtés, on voit des syndicalistes qui sont obligés de fuir, sinon on va les envoyer au front. Vous en pensez quoi, vous, qui suivez aussi l'actualité au Burkina Faso?
J'ai même fait une interview à la télé burkinabé pour parler de liberté d'expression. Si on empêche les gens de s'exprimer... Ben, ils vont rentrer dans le complot parce que, voilà, ici, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils vont l'avaler, mais ils vont l'exprimer autrement. On parle d'unité, mais moi, je pense qu'on n'a jamais été, malheureusement, aussi divisé. Moi, je souhaite, comme je l'ai toujours fait, hein, durant toute ma carrière, je souhaite qu'on laisse les gens s'exprimer. Que ceux qui soutiennent les militaires s'expriment, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les militaires aussi s'expriment. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que l'armée burkinabé, que je salue ici, l'armée malienne et nigérienne, arrive au bout de cette tâche qui n'est pas facile. Surtout que faire la révolution avec les terroristes au fest, ça ne doit pas être facile. Le terrorisme, c'est une gangrène. Même les pays les plus développés ont eu du mal à s'en remettre.
Mais est-ce qu'on peut tout faire au nom de cette lutte contre le terrorisme ?
On ne peut pas tout faire. Il faut tenir compte des droits de l'homme. Mais bon, malheureusement, toutes les guerres sont sales. Il y a eu des guerres ici en Europe, c'était très très sale. Malheureusement, toutes les guerres sont sales, malheureusement.
Justement, à une heure où on parle beaucoup du conflit en Ukraine, où toute la communauté internationale semble focalisée par ces conflits-là, vous avez l'impression qu'on oublie un peu ce qui se passe au Sahel, par exemple?
Oui, nous, on a toujours oublié. Je pense que des pays comme le Congo, Kinshasa, sont en guerre tout le temps. À chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique, c'est minimisé. Mais c'est à nous de nous faire respecter.
La perspective d'avoir l'Union africaine ou un pays africain au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, comme il en est question en ce moment, c'est une bonne chose, d'après vous?
Ah oui. Il faut que l'Afrique ait une voix. Le monde ne peut pas fonctionner totalement sans l'apport de l'Afrique. Les matières premières de l'Afrique représentent beaucoup dans le fonctionnement du monde. Donc, si on apporte, il faut qu'on nous donne aussi la parole. Ça permettra de nous mettre au même niveau que les autres.
La rentrée scolaire malienne, cette année, a été retardée à cause des intempéries et des inondations. À une heure où on a une COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, est-ce que vous avez le sentiment qu'une fois de plus, l'Afrique paye des pots cassés du dérèglement climatique?
Ah oui, l'Afrique paye les pots cassés du dérèglement climatique alors qu'elle contribue moins au réchauffement climatique. Et donc, mais tout ça, c'est la lutte commune qui va changer tout ça. Il faut qu'on se mette ensemble pour représenter ce gros bloc avec une seule voix qui dira aux pays occidentaux, c'est à vous d'arrêter vos usines. Puis je pense que dans cette affaire du climat, il y a une grande hypocrisie. Personne ne veut s'attaquer à la Chine. alors que c'est l'un des plus gros pollueurs. Personne ne veut faire des reproches à l'Inde parce qu'ils sont puissants. Et malheureusement, tant qu'on ne dira pas les choses comme il faut, que chacun ne se rendra pas compte de sa responsabilité, et les choses iront toujours mal dans notre maison commune qui est la planète. Mais bon, c'est la course à l'argent. L'argent, 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 l'argent. Donc, je pense que c'est ce qui rend les gens fous. Moi, je pense qu'il est temps d'écouter la planète.
C'est Kenja Fakoli, je vous remercie.
C'est moi.
Nous allons pardonner, mais jamais oublier.
Tiken Jafakoli, invité de RFI, aujourd'hui, entretien avec Frédéric Garin. De nouvelles pluies torrentielles attendues ce mercredi à Valence et ses alentours, et la région espagnole se remet à peine des inondations meurtrières survenues il y a plus de deux semaines. Outre le bilan humain, les pertes agricoles sont immenses. La production de kaki a été particulièrement affectée. L'Espagne en est le principal exportateur. C'est notre chronique matière première ce matin. Elle est signée Marie-Pierre Olfan.
70 à 80% des kakis espagnols poussent dans la région de Valence. C'est donc l'essentiel de la production qui a été touchée. La récolte avait débuté depuis un mois quand les inondations ont eu lieu. Elle devait se poursuivre jusqu'à mi-décembre environ pour une commercialisation jusqu'à fin janvier. Mais le calendrier habituel sera évidemment bousculé. Sur les volumes qui restaient à récolter, au minimum la moitié a été détruite. Sur certaines parcelles, les pertes se montent même à 70% selon l'association espagnole du kaki. Les fruits qui ont survécu, eux, sont gorgés d'eau. Il sera donc impossible de les conserver 3 à 4 semaines en chambre froide pour allonger la campagne, comme c'est traditionnellement le cas. Il sera peut-être par ailleurs difficile même de tous les ramasser. Beaucoup de chemins ruraux ont été emportés par les eaux, les accès aux champs sont compliqués et le resteront encore plusieurs semaines. L'autre frein, c'est tout simplement qu'il n'y a personne aujourd'hui pour récolter, explique le directeur d'une coopérative. La priorité est souvent ailleurs pour les producteurs eux-mêmes touchés personnellement par la catastrophe. Avant même les inondations, la récolte espagnole s'annonce c'est plus faible que l'année dernière, elle sera finalement catastrophique. Les prix aux producteurs n'ont pas tardé à augmenter, ils sont environ 10 à 20% plus élevés déjà. Les opérations promotionnelles qui avaient été montées dans la grande distribution ont été logiquement déprogrammées, car c'est une certitude, l'Europe devra faire avec moins de kaki cette année. L'Espagne est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur européen. Le deuxième, c'est l'Italie, mais le pays se situe loin derrière et sera donc incapable de pallier le déficit espagnol.
Marie-Pierre Olfond.
RFI Matin.
Le changement climatique et ses conséquences, l'Inde aussi subit ce dérèglement, symbole de cette menace. Monroe Island, un archipel extérieur, intérieur, inexorablement englouti par les eaux. Plusieurs milliers d'habitants ont déjà quitté l'île qui se noie, comme on la surnomme ici. Ceux qui restent, cernés par les eaux, vivent dans des conditions de plus en plus éprouvantes. Mais cette situation pourrait se reproduire. Désormais, la plus grande ville du Kerala est elle aussi menacée par l'océan. Kerala, le pays des dieux englouti par les eaux, c'est un grand reportage de Combastan. En voici un extrait.
Depuis la gare de Monroe Island, nous arpentons la ligne de chemin de fer. Elle ressemble à une digue entourée par les eaux. Les toits, cocotiers et arbres qui émergent encore témoignent d'un petit monde disparu. La ligne de chemin de fer fait aussi office de pont. Entre les trains qui y passent, certains l'utilisent pour rejoindre leur bicoque. Un pont de singe peu rassurant nous amène chez Pushparaj, dont la maison est au ras de l'eau.
Je suis retraité après avoir vécu de petits boulots journaliers. Nous avons construit cette maison en 2010 parce que c'était pas cher. On a consolidé le terrain en déposant de la terre sur cette zone humide. Les marées, il y en a toujours eu, et on se disait qu'on se débrouillerait. Mais c'est de pire en pire. Toutes les nuits, l'eau entre dans la maison et on doit se réfugier sur le lit. Lors des pics, il nous faut fuir en bateau.
Comme tous ceux qui restent à Monroe, faute de pouvoir partir, Pushparaj exprime son désarroi.
On nous dit que c'est le changement climatique. Quoi qu'il en soit, je n'ai nulle part où aller. Ma fille a perdu son mari et vit avec moi. Mon fils travaille dans un atelier mécanique dans une petite ville à 20 km. Je suis inquiet pour l'avenir de Monroe. Pas pour moi, ma vie est déjà filée, mais pour les jeunes. C'était un endroit magnifique où il faisait bon vivre.
«
Dans cet estuaire, les marées de la mer d'Arabie rencontrent plusieurs rivières. L'élévation mondiale du niveau des eaux et le changement climatique sont logiquement pointés du doigt. Voilà pour les grandes lignes. Girish Gopinath, spécialiste du climat et des mers à l'université du Kerala, juge que l'on manque de données précises pour comprendre le destin tragique de ce bout de paradis. Au moment où il nous reçoit, de terribles glissements de terrain ont fait des centaines de morts dans les montagnes du Kerala.
La conséquence la plus immédiate du dérèglement climatique dans le Kerala est que le nombre de jours de pluie est passé de 120 à 80 par an. Par contre, ces précipitations sont beaucoup plus intenses. Cela favorise les glissements de terrain. Lorsque j'ai étudié à Monroe Island il y a 15 ans déjà, j'ai observé que les sols argileux se liquéfiaient. Et cela a sans doute dû empirer. Monroe s'enfonce, c'est donc un double phénomène. L'île coule et la mer monte. Pour les locaux, évidemment, le résultat est le même. On voit les eaux qui grimpent.
Ce grand reportage de Combastin est à retrouver en direct et en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et 20h40 hors de Paris, ainsi que sur notre application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous dans une minute, le journal international.
RFI, la sélection du mois.
Angélique Kidjo et Davido. Sidiki Diabaté et Wally Sek.
RFI Musique.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Rejoignez-nous pour débattre avec Tiken Jafakoli, rédacteur en chef exceptionnel de l'émission. Il vous propose de réagir à la victoire de Donald Trump. Quelles conséquences pour l'Afrique? Et en pleine COP29, nous parlerons réchauffement climatique. Comment l'Afrique peut-elle s'adapter?
33 9
693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Rastafari.